Marcos, une émission proposée par Michel Niaille.
Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous nous retrouvons pour continuer notre étude de la laïcité dans notre pays et nous allons aujourd'hui nous intéresser à une question très concrète, très précise, qui est le lien entre éventuellement la nourriture et les prescriptions religieuses. Alors, je voudrais introduire mon propos en rappelant qu'au-delà de prescriptions religieuses, la nourriture est depuis toujours et dans toutes les sociétés l'objet de pratiques symboliques. Même s'il n'y a pas de règles de droit, nous savons dans nos pays qu'il y a des choses qu'on mange et des choses qu'on ne mange pas. Et cela est très variable d'une société à l'autre. Vous savez que chez nous, nous pouvons manger des escargots, ce qui fait bondir un Anglais qui n'imagine pas qu'on puisse manger des escargots. Pourtant, il n'y a aucun interdit en Angleterre. De même, nous mangeons du cheval. C'est impensable en Angleterre d'avoir un beefsteak de cheval. Donc, on voit bien qu'il y a anthropologiquement des règles qui s'imposent et qui font que certains aliments sont interdits et que d'autres sont possibles. De même, nous, Français ou Européens, nous avons de la peine à manger des insectes frits ou des insectes séchés. Moi, j'en avais ramené du Mexique il y a de longues années à mes filleuls. J'ai cru qu'ils s'étouffaient quand ils ont dû manger devant moi un petit insecte. Donc, on voit bien qu'autour de la nourriture, il y a des pratiques symboliques qui font que tout n'est pas consommable, que tout n'est pas l'objet de la nourriture et que finalement, ça n'a pas d'explication pratique. Moi, j'ai mangé du chien, par exemple, en Chine. Imaginez ici en France un restaurant qui servirait du chien, ce n'est pas possible. Ou j'ai mangé du chameau en Algérie. Évidemment, chez nous, on n'a pas beaucoup de chameaux, mais ce n'est pas pensable d'avoir un steak de chameau. Donc, ceci pour dire qu'il n'y a pas que la religion, qu'il y a des tas de pratiques que nos sociétés ont développées pour des raisons diverses et variées qui tiennent à l'aspect de l'animal, à sa couleur, à sa forme, à l'usage qu'on en fait et qui interdisent de manger sa chair. Évidemment, la religion va intervenir ou les religions vont intervenir dans les prescriptions alimentaires. Et je voudrais dire maintenant quelle est la part que le droit va y prendre. Donc, dans un premier temps, je vais voir comment le droit s'intéresse ou ne s'intéresse pas à ces problèmes alimentaires. Et dans un deuxième temps, je verrai les cas particuliers où notre société doit se préoccuper de ces interdits alimentaires. Alors d'abord, la question générale, est-ce que le droit s'intéresse aux interdits alimentaires? Eh bien, non. Si j'ose dire, le principe général, c'est la liberté pour chacun de manger ce qu'il a envie de manger. Il n'y a pas d'intervention du droit pour interdire ou au contraire prescrire tel ou tel aliment. La seule question que se pose la règle de droit, c'est l'hygiène publique. Est-ce que ce que vous allez manger est proprement présenté? Est-ce qu'il y a eu une chaîne de prescription pour être sûr qu'il n'y aura pas d'empoisonnement, donc du contrôle sanitaire? Et ils ont été redoublés, il faut le dire, en Europe, grâce à l'Union européenne, par rapport à nos pratiques. Quand vous regardez, par exemple, la fabrication des fromages traditionnels dans les campagnes, ben, aujourd'hui, ils ont été obligés de s'aligner sur des prescriptions qui font qu'on ne peut pas laisser se maintenir des pratiques qui dataient quelquefois du Moyen-Âge. Vous savez, moi, je me souviens d'avoir entendu des paysans qui font, en touillant dans une grande marmite, le lait pour faire du fromage et qui disaient « Oh, ben, s'il y a une mouche qui tombe, avec le doigt, je l'enlève et puis voilà. » Bon, vous imaginez aujourd'hui si tout le monde peut tremper ses doigts pour enlever une mouche qui est tombée dans le lait. Donc, l'idée, si vous voulez, qui prévaut, c'est qu'en dehors des prescriptions alimentaires pour des raisons de sécurité sanitaire, la nourriture est une affaire privée qu'on n'a pas à intervenir pour dire aux gens ce qu'ils doivent manger ou ce qu'ils ne doivent pas manger. Et vous voyez aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'émissions à la télévision où on apprend aux gens ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faudrait pas manger, pourquoi il faut manger par exemple la salade, des radis et puis des fruits, et puis moins manger de viande, etc. On voit que ce sont des prescriptions, entre guillemets, sanitaire ou alimentaire ou médical, mais le droit ne vous dit pas qu'il faut manger 5 légumes et fruits par jour pour être en bonne santé. C'est votre affaire. Alors, ceci étant, puisque c'est une affaire privée, vous comprenez bien que le secteur privé de l'alimentation dans notre économie joue largement les effets de mode, les effets de présentation, et on voit bien que si le droit ne s'en préoccupe pas, sauf sur le plan strictement sanitaire, les entreprises, elles, s'en préoccupent, et on voit tous les jours paraître sur nos rayons des produits nouveaux, plus diététiques, plus agréable. Et on voit bien que là, même si on renforce tous les jours les normes pour savoir qu'est-ce que l'on mange et savoir qu'est-ce que les étiquettes nous disent, et on voit bien que souvent on a menti sur le contenu des boîtes que l'on vous vend ou des produits qui sont exposés, on voit bien que le droit, lorsqu'il intervient, intervient toujours dans le même sens, assurer au consommateur une transparence de la connaissance qu'il a de ses produits. Alors maintenant, la question qui se pose et que le droit doit résoudre, c'est lorsque l'alimentation n'est pas une affaire uniquement privée, mais se développe dans un espace public. Il y a en effet des cas où on mange ensemble. Et c'est pas forcément toujours un choix, c'est presque une nécessité pour des raisons d'horaire. Qu'est-ce qu'on fait avec, pour parler simple, les cantines ? Parce que dans les cantines, le repas, il est préparé à l'avance. Ce n'est pas vous qui choisissez. Vous avez au mieux quelques plats à choisir quand vous passez avec votre plateau. Alors, les cantines, on pense surtout, on va le voir, aux cantines scolaires, mais moi, je pense aussi aux cantines administratives ou d'entreprises. Hein, il n'y a pas que les écoles où quelqu'un qui est un professionnel a préparé le repas. Est-ce qu'on a un droit de regard sur ce repas ? Alors, prenons d'abord les cantines publiques et plus spécialement les écoles. Il faut savoir que dans les écoles, les cantines dépendent de la collectivité locale qui assure la conduite du niveau scolaire considéré. La commune s'occupe des cantines des écoles, donc du primaire, le département s'occupe des cantines des collèges et la région s'occupe des cantines des lycées. Donc, chacune de ces collectivités locales organise à sa manière, les repas et la manière dont ils sont servis. Ce qui veut dire que nous sommes en face de ce qu'on appelle en droit un service public objectif, c'est-à-dire on vous présente objectivement de la nourriture et vous n'avez pas, vous, en tant que bénéficiaire ou usager, le droit d'intervenir sur ce qui vous est présenté. C'est comme si vous décidiez que vous voulez que le tramway soit bleu ou jaune ou que la poste ait une allure de telle ou telle manière. Non, les services publics sont organisés par la puissance publique, par la collectivité de référence et vous êtes simplement un usager, vous êtes simplement un bénéficiaire et vous n'avez pas droit au chapitre. Alors, ça pose problème, évidemment, puisque dans les écoles, les parents vont dire « mais nous sommes responsables de l'alimentation de nos enfants, surtout s'il y a des prescriptions particulières, et nous voulons que ça soit pris en compte ». Alors, s'il s'agit de prescriptions médicales, il est bien évident qu'un enfant qui ne peut pas manger du gluten ou qui ne peut pas absorber tel ou tel produit sera renforcé grâce aux menus qui lui seront servis dans ses interdits. Évidemment qu'on ne va pas lui servir quelque chose qui porterait atteinte à sa santé. mais lorsque cela a une résonance religieuse, ce qui est un autre cas, la santé n'est pas en cause, c'est chez nous, on ne mange pas ceci ou cela. Alors, vous pensez évidemment aux Juifs et à certains plats, et vous pensez aux musulmans et à l'interdiction de la viande qui n'a pas été sacrifiée. Alors, il y a là-dessus, malheureusement, si j'ose dire, deux positions. La première opposition, la plus traditionnelle, un peu la plus sévère, c'est de dire en République, tout le monde est aligné sur le même niveau. Autrement dit, il n'y a pas de particularisme, la République ne connaît que des citoyens. Ce qui veut dire que le département ou la commune ou la région prépare avec les professionnels des menus et n'a pas à se soucier de telle ou telle prescription privée. Et donc, ça veut dire même repas pour tout le monde parce que nous sommes tous des citoyens. C'est la position adoptée par un certain nombre de communes, par exemple pour les écoles, en disant pas de repas spéciaux. Vous savez que dans une formule lapidaire qui ne l'honore pas, un ancien président de la République avait cru bon de dire « Ah ben s'ils ne veulent pas de la saucisse, on leur donnera double ration de frites ». Autrement dit, on ne changera pas le menu, eh ben tant pis pour eux, et ils mangeront autre chose qui était prévue dans le repas. C'est une vision un peu raide de la République, qui n'est pas totalement dénuée de sens, mais qui fait fi d'un autre principe, qui n'est pas simplement l'égalité des citoyens, mais l'autre principe, c'est la liberté des citoyens. Et donc, il y a une deuxième position qui est adoptée dans d'autres communes, par exemple pour les écoles, ou départements ou régions, pour les collèges et les lycées, et qui est de dire « il faut qu'il y ait un choix ». La liberté, c'est d'abord le premier principe d'organisation de notre société. Et pour qu'il y ait un choix, il faut donc que l'enfant ait la possibilité, entre deux plats, de choisir celui qu'il veut sans que personne ne lui dise ce qu'il faut prendre. Et donc, des repas pluriels, si j'ose dire, qui posent d'autres problèmes d'organisation, peut-être de cherté, parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de choses que l'on jette, parce qu'on peut difficilement calculer à l'avance exactement le nombre de plats, et surtout, même un enfant, par exemple d'origine musulmane, qui est supposé ne pas manger de porc, si à la cantine il prend le plat de saucisse, on ne peut pas l'en empêcher. On ne peut pas lui dire, ce que malheureusement j'ai vu dans certains établissements, « Ah non, tu t'appelles Mohamed, donc il faut que tu manges du poisson ». Ça, ce n'est pas possible. Et donc, vous voyez qu'il y a deux positions principielles, au fond, entre lesquelles, pour le moment, notre droit n'a pas tranché, qui est de la liberté totale des communes, des départements et des régions, soit servir le menu unique dit républicain, soit servir, au contraire, un menu avec un choix possible, au moins, entre deux plats. Alors, continuons. Évidemment, il y a eu des conflits et donc ils ont été portés devant les tribunaux et on s'aperçoit que les tribunaux ont balancé quelquefois entre plusieurs solutions, les tribunaux administratifs, et pour le moment, nous n'avons pas encore un jugement définitif, c'est-à-dire un arrêt du Conseil d'État qui fixerait la ligne. J'imagine que si le Conseil d'État intervient, il dirait « principe de liberté » et donc en fonction du principe de liberté, chacun mange ce qu'il veut, ce qui désavouerait d'une certaine manière les menus uniques. Alors, on a déjà préfiguration. Il y a eu un cas récemment à Chalon-sur-Saône où la nouvelle municipalité, qui est très à droite, a refait les offres en matière de menus des écoles de la commune. Jusque-là, c'était un menu pluriel et la nouvelle municipalité a décidé qu'au nom de la République, il n'y avait qu'un seul repas servi, ce qui visait directement les musulmans. L'affaire est allée devant le tribunal administratif, mais elle n'est pas encore allée devant le Conseil d'État. Et le tribunal administratif a donné tort à la commune, pas sur des raisons de fond, mais sur une raison un peu de procédure, en disant il n'y a pas de raison de changer le système antérieur qui donnait toute satisfaction sans avoir d'argument précis. qui est une manière évidemment de botter un peu en touche et de dire vous ne pouvez pas, au nom d'une idéologie particulière, transformer le service public qui fonctionnait préalablement. Alors, ça veut dire que, bien sûr, il n'y a aucune obligation de servir ou de ne pas servir du porc, par exemple, mais il faut offrir un choix. À ce sujet, je voudrais vous parler d'un petit opuscule que j'ai eu entre les mains et qui est la restauration dans les écoles de la ville de Béziers. Vous voyez quelle est la couleur politique à la ville de Béziers. Et c'est très habile parce que quand vous ouvrez ce petit dépliant, vous avez au menu des changements importants. Et voici ce que dit le texte. La ville a souhaité proposer aux familles de nouveaux menus. Ah, alors on s'attend au pire ou au meilleur. Et vous avez tous les jours, vos enfants pourront manger le choix entre le menu classique, comprenant de la viande, sans autre précision, ou le menu végétarien avec simplement des protéines végétales. Et puis, le jeudi, pour les familles qui le demanderaient, un menu vegan. Alors, apparemment, tout est républicain, tout est clair. Mais regardez de plus près. Les familles ont le choix entre le menu classique, qui comporte de la viande, et le menu sans viande. Or, ce que voudraient certaines familles, notamment musulmanes, c'est que leurs enfants puissent manger de la viande, du poulet, par exemple, ou bien d'autres, ou du veau, mais pas du porc. Or là, si vous prenez le menu classique, vous serez amené peut-être à avoir un menu avec de la saucisse et vous n'aurez rien d'autre. Et comme vous avez fait le choix, vous ne pouvez pas vous rabattre sur l'autre menu végétarien. Donc, c'est une manière de boucler les familles dans une espèce d'impossible choix parce que les familles voudraient bien le menu avec de la viande, mais pas toutes les viandes. Alors que là, les familles vont être obligées d'avoir ou le menu avec viande, avec évidemment au profil le porc, ou le menu végétarien. Et vous voyez comment c'est très habile parce que devant un tribunal, le maire de Béziers pourra plaider le choix en disant « mais moi, je n'interdis rien à personne, ils ont le choix. Ah ben oui, dans le menu avec viande, écoutez, nous, c'est la viande, on n'a pas précisé laquelle. » Donc, vous voyez que c'est un objet de débat, si j'ose dire, très politique et qui s'est emparé dans différentes communes de cette question pour, en réalité, s'adresser directement à une population déterminée qui est la population musulmane. Il faut attendre que l'affaire un jour aille devant le Conseil d'État et qu'on ait une solution, assez définitive. Je pense, comme je le disais il y a un moment, que le Conseil d'État fera comme à propos des crèches dans les mairies en disant « ça dépend hein. ». Toutes les crèches ne sont pas des objets religieux, certaines ne sont que des objets culturels et donc dans ces cas-là, on peut les accepter. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont dire sur les menus et sur la liberté de choix des familles. Voilà la situation, je dirais générale, de la place du droit par rapport à l'alimentation en général et l'alimentation en milieu, j'allais dire, particulier, qui est le milieu scolaire, dans les cantines, où c'est la collectivité locale qui décide du menu. J'ajoute, mais il n'y a pas besoin de gloser longuement, que évidemment les menus organisés par les collectivités locales sont soumis à des règles diététiques et à des protocoles extrêmement précis qui sont d'ailleurs la plupart du temps liés à des normes européennes. Il faut certains équilibres entre les protides, les glucides, il faut une certaine variété, etc. etc. Mais ça, c'est purement technique. Ça n'a rien à voir avec les choix fondamentaux sur les rituels religieux. Et vous voyez qu'en la matière, nous sommes obligés d'attendre que le Conseil d'État ait un peu décidé, puisqu'il n'est pas pensable d'avoir une loi qui déciderait que quand on est dans une cantine publique, on n'a aucun droit sur les mets et sur la nourriture qui nous est servie. Alors, reste maintenant une deuxième question qui est que se passe-t-il, non plus avec les enfants dans les cantines scolaires, mais dans tous les milieux où les Français ou les Françaises ou des étrangers, donc des individus, se trouvent enfermés, se trouvent privés de liberté. Et là, dans ces lieux privés de liberté, il y a aussi des cantines. Et la question se repose évidemment du respect éventuellement des règles religieuses dans ces lieux fermés. Je vous rappelle que la loi de 1905, dans son article 2, avait déjà prévu une exception en non-intervention de la République en matière religieuse. Cette exception, c'est les aumôneries. Dans 4 lieux fermés que je vais vous citer, les aumôneries participent, si vous voulez, au maintien des pratiques rituelles et religieuses de ceux qui le désirent. Ces lieux fermés, c'est évidemment d'abord l'armée. On ne peut pas rentrer et sortir comme on veut. C'est la prison, c'est l'hôpital et enfin l'internat dans les lycées ou les collèges qui en possèdent un. Que se passe-t-il dans ces lieux fermés où on doit être également nourri? Alors, dans l'armée, c'est très vieux, depuis le 19e siècle, et je vous surprendrai puisqu'on est dans une époque où on va célébrer Napoléon. Depuis l'armée napoléonienne, les mamelouks étaient servis en respectant les prescriptions coraniques. Donc, dès le début du 19e siècle, on avait fait un régime un peu à part pour les musulmans. Et je vous signale que au château des Tuileries, pour les mamelouks qui servaient Bonaparte, il y avait une petite mosquée. On avait transformé un salon en une petite mosquée. Alors, l'armée a toujours été là-dessus extrêmement libérale, parce que comme il faut compter sur l'entier dévouement des militaires, évidemment qu'il y a des cas où on ne va pas les brusquer ou les braquer sur une question de nourriture. Donc, ça fait belle lurette que l'armée sert des rations particulières pour les juifs et les musulmans. Et que d'ailleurs, même au-delà, par exemple, on évitera un samedi d'envoyer un juif dans une zone un peu dangereuse, qu'on va lui éviter d'avoir certaines pratiques et qu'on ne va pas évidemment obliger un musulman à manger n'importe quelle ration. Donc, depuis très longtemps, les rations, soit en caserne, soit sur le terrain, lorsqu'on est en manœuvre, et à plus forte raison en guerre, les rations prévoient les cas particuliers des juifs et des musulmans. Donc, l'armée, si vous voulez, depuis très longtemps, sert des menus kasher et des menus halal pour les militaires juifs et les militaires musulmans. On n'en entend jamais parler et on met ça à part. Alors même que je vous le signale, la nourriture kasher ou la nourriture halal suppose que vous payez la viande avec à l'intérieur du prix une petite partie qui est reversée à l'imam pour les musulmans, au rabbin pour les juifs, qui est une contrepartie d'un acte cultuel. Et donc, d'une certaine manière, c'est le versement d'une subvention au culte juif ou au culte musulman, ce qui est strictement interdit par la loi de 1905. Mais on ferme les yeux et on dira que finalement, ça fait partie des contraintes spécifiques de l'armée. Qu'en est-il, deuxième lieu, pour la prison? Alors, pour la prison, vous le savez, il y a des aumôniers qui sont présents, il y a des salles réservées au culte, de telle sorte qu'un détenu puisse satisfaire aux besoins de sa conscience et de ses rituels. Qu'en est-il des repas? Là aussi, les détenus n'ont pas le choix des repas qui leur sont servis, pas plus que dans les cantines scolaires. Et en général, on se débrouille, ou en tout cas, il n'y avait pas eu jusqu'à récemment de protestation. Assez récemment, un détenu de Grenoble, qui était condamné pour une longue peine, a exigé que dans les repas qu'on lui servait dans sa cellule, il y ait de la nourriture halal. Et là, évidemment, le problème, après avoir été simplement discuté, est allé devant le tribunal administratif de Grenoble. Et contre toute attente, le tribunal administratif de Grenoble a donné raison aux détenus en disant qu'au nom de la liberté de conscience, au nom de du respect des croyances, la République devait servir des menus halal aux détenus qui le demandaient. Branle-bas de combat, qui n'est pas simplement juridique, mais qui est extrêmement pratique. C'est qu'on a réalisé, parce qu'il faut aussi penser aux juifs et aux menus spécifiques, on a à ce moment-là réalisé que s'il fallait pas simplement à Grenoble, mais donc désormais dans toutes les prisons de France et de Navarre, servir des régimes spéciaux pour les musulmans et pour les juifs, il fallait réorganiser toutes les cuisines des prisons. Et cela supposait un investissement colossal. Et bien évidemment, je pense notamment aux Juifs, vous savez que, comme le dit, je crois, le Lévitique, tu ne mélangeras pas l'agneau avec le lait de sa mère, il faut avoir deux cuisines séparées, des plats, des casseroles, des fourchettes. On ne peut pas utiliser la fourchette qui a été utilisée pour la viande pour touiller le lait. Donc, il faut deux régimes particuliers d'organisation de la cuisine. Vous imaginez la remise en ordre de toutes les cuisines des prisons de France et de Navarre. Et donc est remontée au ministère cette idée que c'était de la folie de faire accepter comme la règle la décision du tribunal de Grenoble. Et donc c'est monté au Conseil d'État. Évidemment, le Conseil d'État a donné raison à l'administration en disant deux choses un peu curieuses. D'abord, vous avez des plats de substitution. Et donc, ben, si vous ne voulez pas manger de la viande que vous avez servie, vous aurez autre chose, du poisson ou je ne sais quoi d'autre. Et deuxième chose, et puis après tout, vous pouvez cantiner. Vous savez, cantiner, c'est sur ses propres deniers, acheter dans une sorte de petite épicerie interne, comme dans l'armée d'ailleurs, à la prison, vous allez acheter les produits dont vous avez besoin. Après tout, vous avez un peu d'argent. Et ben, alors, à ce moment-là, achetez vous-même ce que vous voulez manger. Et avec ces deux arguments, d'une part, vous avez un minimum de choix, et puis d'autre part, vous avez la possibilité de cantiner, le Conseil d'État a décidé que la revendication de ce monsieur était tout à fait impossible à satisfaire et qu'en tout cas, elle n'était pas conforme au droit. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en prison et qui ne veulent pas manger ce qu'on leur sert, d'abord, doivent se satisfaire d'un minimum de choix qui leur est proposé, et sinon, il faut qu'ils aillent cantiner. Alors, il nous reste un dernier créneau, troisième lieu fermé, l'hôpital. Alors, à l'hôpital, comme dans la prison et comme dans l'armée, et puis on verra comme dans les internats, à l'hôpital, bien évidemment que la liberté religieuse doit être respectée. C'est la raison pour laquelle, quand vous entrez à l'hôpital et que vous devez subir une opération grave, on vous demande si vous appartenez à une religion particulière au cas où il y aurait des prescriptions spécifiques. Mais surtout, vous avez la présence à l'intérieur de l'hôpital, comme dans la prison et comme dans l'armée, d'un corps d'aumôniers, chrétiens, musulmans, juifs et même aujourd'hui bouddhistes. Et cette aumônerie qui est présente est chargée de veiller à ce que les personnes hospitalisées qui le demandent puissent satisfaire à leurs besoins religieux ou de célébration. Donc, il peut y avoir une chapelle pour ceux qui peuvent se déplacer. Sinon, on peut venir apporter la communion dans la chambre. Il peut y avoir des visites avec des prières. Bref, il y a tout un ensemble de rituels qui peuvent être maintenus et assurés par les aumôniers à la demande des malades. Qu'en est-il pour les repas ? La même question se pose. Les juifs ou les musulmans vont dire qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas manger. La chose qui est acceptée, c'est que d'abord ce qui prévaut, c'est les prescriptions médicales. En matière de nourriture, ce n'est pas aux malades à choisir, c'est d'abord aux médecins à décider ce qui est bon ou pas bon pour le malade. Donc ça, c'est une première barrière qui est, j'allais dire, nécessitée par l'objet même de l'hôpital qui est de soigner. Donc c'est le médecin qui dira si telle ou telle demande faite par le malade est acceptable ou non d'après son protocole sanitaire. Et puis pour le reste, on s'en tire avec l'idée qu'on fait comme on peut, c'est-à-dire on va essayer de vous offrir un choix. Et en général, je l'ai moi-même expérimenté, vous avez au moins un choix entre deux, non pas repas, mais deux plats principaux, viande ou poisson ou végétarien, peu importe, de sorte que dans les limites des prescriptions médicales qui sont la norme principale, il y a un minimum de choix qui permet à quelqu'un de ne pas manger contre sa volonté un plat ou un mets qui est contraire à sa religion. en général, on n'a pas de remontée de problèmes sous cet angle-là dans les hôpitaux. Les choses se passent plutôt bien par la négociation, par l'explication, et on n'a pas de problème majeur en matière de nourriture dans les hôpitaux. Alors, reste le dernier lieu fermé qui est l'internat. L'internat pour les collèges et les lycées, ce n'est pas le cas de tous les collèges et de tous les lycées, évidemment, qui comporte également une aumônerie pour permettre aux enfants qui ne peuvent pas sortir de toute la semaine, voire même quelquefois le dimanche, d'assurer leurs obligations religieuses. Eh bien, les cantines dans l'internat ont presque la même solution que ce que j'ai expliqué pour les cantines pour les enfants qui vont à l'école, c'est-à-dire que sous réserve de prescription tout à fait générale, en général d'origine européenne, sur la composition des repas. Ensuite, la pluralité des plats, au moins le choix entre deux, permet d'éviter qu'il puisse y avoir, à l'occasion de tel ou tel repas, des récriminations et des problèmes. Donc, en général, les cantines dans les lycées et les collèges qui comporte un internat, respecte ce minimum qui est d'assurer un choix et d'éviter que la nourriture ne devienne un problème. Donc, concluons, si vous voulez, sur cette affaire de la nourriture en relation avec les obligations religieuses. Vous voyez que finalement, se conjuguent deux logiques. La première logique et la plus importante, c'est le principe de liberté, qui est quand même le principe fondamental de la laïcité. Personne n'est obligé d'obéir à des règles auxquelles il ne veut pas se soumettre parce qu'en conscience ou d'après sa culture, il ne peut pas le faire. Donc, il faut trouver les solutions à partir du principe de liberté. Et puis, il y a un autre principe de réalité, c'est que les collectivités locales en général ou les autorités administratives qui doivent décider sont, plutôt enclines à choisir un repas ou des formules de repas avec un choix possible plutôt que d'appliquer une sorte de règle au nom de l'unité de la République qui ne peut que révulser certaines familles ou certains individus. Donc, il faut conjuguer la liberté des participants au service public au sens où ils en sont les bénéficiaires et les modalités pratiques des collectivités ou des autorités administratives qui doivent organiser les repas. Dans la plupart des cas, les solutions sont trouvées, mais il faut l'avouer, quand une collectivité, je pense à une commune, veut faire de ce problème de cantine un problème politique central, c'est facile et elle peut, on vient de le voir avec le menu proposé par la mairie de Béziers, trouver des formules suffisamment habiles pour que finalement il n'y ait pas réellement de choix quelquefois de la part des familles et on vise essentiellement une population, ce qui n'est pas du tout normal. Voilà, à la semaine prochaine.
Laïcos, une émission proposée par Michel Niaille.